parlé, c'était énoncé de la façon suivante, besoin et économie. Avec un titre comme ça, vous vous dites, ça va quand même être assez rasoir. Mais voilà, en fait, ça, vous allez voir, ça touche à notre vie quotidienne et à des grandes questions de société. Et je commencerai par une petite introduction. Nous vivons depuis des décennies sur une croyance, le progrès, c'est le toujours plus. C'est la croissance illimitée de la consommation et donc de la production. Les besoins sont illimités en quantité et certains nous disent qu'on aura toujours besoin de croissance économique parce que sans elle, la civilisation s'effondrerait, il n'y aurait pas d'emploi, etc. Donc consommer plus, c'est pas seulement bon pour chacun, c'est quasiment un devoir collectif. Voilà un peu ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, et ce que je vais faire là, c'est contester cette idée sous l'angle des besoins. Avons-nous vraiment besoin de toujours plus consommer? Qui nous le fait croire? Que disent ceux qui contestent cette idée et pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux? Eh bien, c'est à ça qu'on va réfléchir. Je vais laisser les dernières personnes, les dernières arrivantes s'installer. Et alors, je vais y réfléchir. Moi, je suis économiste de formation, même si je m'intéresse beaucoup à ce que font d'autres gens, des sociologues, des philosophes. On pourrait traiter ça en philosophe, ou en sociologue, ou en psychologue. Donc je vais le faire en économiste qui s'intéresse quand même beaucoup par ailleurs à toutes ces autres disciplines. Et je vais commencer par un petit sondage pour histoire de stimuler un peu les neurones. J'ai participé il y a 2 ou 3 mois à une émission de France Inter, une émission le matin qui s'appelle Service public, animée par Isabelle Giordano. Et le thème de cette émission, c'était « Consommer rend-il heureux ?» Une sorte de mauvais sujet de philo au bac, quoi. Chose comme ça. Mais bon, la discussion était intéressante. Et en même temps que cette émission, il y avait un sondage en ligne réalisé par France Inter auquel les gens ont pu répondre pendant des jours et des jours. En tout, il y a eu 11 000 réponses. Et je vous donne les résultats. Est-ce que consommer rend heureux? Réponse oui, 19%. Réponse non, 78%. Ne se prononce pas, 3%. Ce sondage n'est pas du tout représentatif, la question n'est pas très précise, elle est même très vague, donc il y a des tas de raisons de contester ces résultats. Mais en tout cas, ce n'était pas un hymne au consommer toujours plus. Et donc on a besoin de réfléchir, et je vais le faire en 3 temps, ça sera les 3 temps de mon exposé, réfléchir à la façon dont nos besoins sont influencés et par qui, comment, réfléchir aux limites du toujours plus consommer, en particulier aujourd'hui les limites écologiques, et puis réfléchir à peut-être à une autre façon de mettre l'économie au service de besoins sociaux en respectant la nature. Ça sera donc les 3 temps. Et le premier temps, c'est donc comment nos besoins sont sous forte influence, je vais dire, certains disent manipulés. Et je vais appuyer pour commencer sur un grand économiste américain des années 1960-1970 environ, qui s'appelle John Kenneth Galbraith, et il opposait 2 types de capitalisme. Il disait dans l'ancien type, celui en gros jusqu'au milieu des années du XXe siècle, les entreprises produisaient pour faire face à la demande des individus. Elles avaient très peu de moyens de susciter cette demande, de la manipuler. Et puis, le nouveau type de capitalisme, depuis une cinquantaine d'années environ, qui s'est imposé après la Deuxième Guerre mondiale, voit de grandes entreprises qui sont en mesure de planifier leur croissance en suscitant chez les consommateurs des désirs d'achat correspondant à leurs propres besoins d'entreprise, de croissance. On assiste en quelque sorte à la fabrication des consommateurs, plus exactement des comportements de consommation. Les consommateurs qui sont considérés comme des débouchés de la croissance et pas des gens à qui on demande leur avis sur ce qu'ils ont vraiment besoin, sur ce dont ils ont vraiment besoin. Alors comment ça s'est fait ça? Comment produire le consommateur comme débouché de la production des grandes entreprises? Premier temps a été ce qu'on a appelé le Fordisme, du nom d'Henry Ford, le grand patron de l'industrie automobile du tout début du XXe siècle, les années 1900, 1910, 1920. Son idée était simple, à l'époque c'était assez révolutionnaire, il disait les ouvriers doivent gagner suffisamment non seulement pour pouvoir vivre et se loger décemment, mais aussi à terme pour pouvoir acheter une voiture. Parce que mon objectif en tant que patron de l'industrie automobile, c'est de produire des voitures moins chères avec des gens qui peuvent les acheter. Et c'est la condition de croissance de mon marché qui est de plus en plus de gens qui puissent les acheter. Donc ça, ça a été le Fordisme, distribuer du pouvoir d'achat. Mais ça s'est révélé insuffisant. Il ne suffit pas de distribuer du pouvoir d'achat pour que les besoins d'achat, les désirs d'achat se multiplient. Les gens risquent par exemple d'épargner, de ne pas participer à la relance perpétuelle de la consommation, et Galbraith cite dans son livre ses propos formidables d'un président américain des années 50, le président Eisenhower. C'était une conférence de presse et il y avait à ce moment-là une récession en cours, à la fin des années 50. On lui disait « Que peuvent faire les citoyens pour combattre la récession ?» Il répondit « Acheter ». On lui dit « Mais acheter quoi ? N'importe quoi ». On est donc là, et tout le pays résonna à l'époque de slogans quasiment patriotiques « Acheter, c'est le devoir des citoyens ». Alors, bon, on peut dire peut-être que les Américains sont un peu caricaturaux en la matière, en France on est quand même plus raisonnable, c'est pas sûr. Il y a un an, le 14 février 2009, Le Monde publiait en pleine page 5 pistes pour, je cite, « pousser les ménages à acheter ». Et on retrouve cette idée partout. Une panne de la consommation, c'est grave, etc. Voilà, donc on est devant une situation où les entreprises ont besoin de faire en sorte que les gens achètent, s'il le faut à crédit, s'il le faut n'importe quoi, compte tenu de leurs propres objectifs d'expansion. Bon, le conditionnement du consommateur, on utilise cette fois cette formule, évidemment, ça passe par la publicité, et dans un instant, je vais en parler. Mais ce n'est pas la seule façon de faire, ce n'est pas le seul dispositif. Le marketing, la fonction commerciale avec les vendeurs, le renouvellement incessant des produits, hyper rapide, les marques, la mode, qui est un dispositif pour inciter à renouveler ses achats, même quand on n'a pas besoin de changer de produit. Le crédit à la consommation, une énorme invention dont on a vu les ravages aux États-Unis dans la période récente, avec actuellement environ 10 millions de personnes qui ont perdu leur logement. Et puis des tas d'inventions que vous connaissez bien. Des dernières décennies, ça n'existait pas avant. Les soldes, les fêtes de fin d'année, qui sont devenues des fêtes de record de vente. La fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. J'attends le succès de la fête des grands-pères, puisque moi je suis concerné, mais ça n'a pas l'air de marcher. Halloween, la Saint-Valentin, etc. Donc voilà, on est dans un processus de perpétuelle incitation à la relance des achats, qui a été inventé par les grandes entreprises au cours des 30 ou 40 dernières années pour pousser à acheter, pour nous convaincre que le superflu nous est absolument nécessaire, pour nous inciter à remplacer des biens qui marchent très bien par d'autres, pour faire en sorte que les biens durables ne durent pas trop, pour qu'on achète beaucoup plus de biens alimentaires qu'on en consomme. Aux États-Unis, on jette entre 40 et 50% de la nourriture achetée. En France, on est probablement entre 20 et 25%. Je vais vous donner des exemples concrets concernant les biens durables, les trucs que vous connaissez bien. Et comment il y a des stratégies de pousse à l'achat. Alors, une citation que j'aime bien, en 1950, aux États-Unis, parce que les États-Unis montrent l'exemple quand même dans ce domaine, si je puis dire, le PDG d'une grande firme du vêtement disait « Le besoin utilitaire de vêtements, c'est quoi le besoin utilitaire ? Ça veut dire se vêtir correctement, décemment, confortablement, n'est pas une base suffisante pour la prospérité d'une industrie vestimentaire. Nous devons accélérer le processus de changement. » Et là, il y a une phrase géniale. C'est à nous qu'il appartient de rendre les femmes malheureuses avec ce qu'elles possèdent. Après, ils se sont intéressés aussi aux hommes, aux jeunes, hein, je vous rassure, hein, mais à l'époque, c'était ça la cible. Deuxième exemple, une enquête de 2010, tout à fait sérieuse. La durée de vie moyenne des appareils électroménagers courants est aujourd'hui de 6 à 8 ans. Elle était de 10 à 12 ans dans les années 90. C'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. et plus dans les années 70. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'une télévision à écran plat est programmée pour durer environ 6, 7 ou 8 ans, contre 10 à 15 ans pour les télévisions à tube cathodique. Moi, j'ai une vieille télé chez moi qui marche très bien. Elle a 15 ans, elle n'est jamais tombée en panne. Et alors, j'ai mes enfants qui me disent quand même, écoute, tu aurais acheté un bel écran plat. C'est cool, un bel écran plat, on voit mieux, les techniques. Et moi, je dis, j'ai vraiment besoin de changer ma télé qui marche pour prendre un écran plat. Pourquoi je ferais ça? Ouais, mais regarde le format. Bon. Supposons que je fasse un sondage parmi vous. Alors, je vais poser la question. Quels sont ceux qui pensent que si j'ai une vieille télé qui a 15 ans qui marche, c'est mieux de la garder? Quels sont ceux qui pensent, comme mes enfants, quand même, je suis vieux jeu et que je ferais bien de m'acheter un écran plat? On lance le sondage? Après, il y a ceux qui diront, je sais pas, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon. Alors, quels sont ceux et celles qui donnent raison à mes enfants et qui pensent que je devrais m'acheter un écran plat? Allez-y, hein, allez-y. Je ne vais pas compter tout le monde, mais je vais voir assez vite qui l'emporte. Ah non, mais bon. Deuxièmement, quels sont ceux qui pensent que puisque ma télé marche bien, il n'y a pas besoin de la changer? Ah, c'est serré, hein. C'est carrément serré comme référendum. Je vais dire ça à mes enfants quand je rentrerai.
Ah, mais vous,
j'ai oublié la TNT. Ouais, mais je vous ai raison. J'oublie la TNT. Sauf que moi, je reçois la TNT. Mon problème avec la vieille télé, vous avez raison, c'est que comme elle n'est pas dans le format nouveau, j'ai des bouts d'écran sur les à droite et à gauche que j'ai pas. Donc, pour ça, voilà. Donc, il y a un petit inconvénient quand même. Mais pourquoi ils se sont débrouillés pour changer de format aussi? Vous croyez que c'est pas aussi pour inciter les gens? C'est pour, en partie quand même, pour m'inciter à acheter plus. Moi, je dirais bien comme vous. Enfin, quoi qu'il en soit, pour l'instant, je résiste, et si un jour je flanche, je vous le ferai savoir. Savez-vous que... Alors, oui, j'ai parlé de programmer la durée de vie pour que ça dure pas trop longtemps. Vous allez me dire, peut-être que j'exagère, que je fais un procès d'intention. Bon, il y a toute une série de gens qui étudient aujourd'hui l'obsolescence programmée des produits. L'obsolescence, ça veut dire le fait d'être périmé, d'être dépassé. Savez-vous qu'on paye aujourd'hui dans les grandes entreprises des gens très qualifiés, ingénieurs, chercheurs, techniciens, pour faire en sorte que les produits ne durent pas beaucoup plus longtemps que leur période de garantie, pour faire en sorte qu'ils tombent en panne et si possible qu'ils ne soient pas réparables? On paye des gens et des chercheurs pour ça. Et pourquoi? Là encore, parce qu'il faut absolument renouveler incessamment les achats pour que la machine économique de ces grandes entreprises continue à tourner comme eux, en tant qu'elles tournent. Et bien, cela dit, ça existait déjà dans les années 50, ce phénomène beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Un Américain connu écrivait, qui s'appelle Vance Packard, qui s'intéressait beaucoup à ces questions aux États-Unis, écrivait en 58, « Les hommes d'affaires définissent ainsi un article d'usage, celui qui dure jusqu'au dernier paiement à crédit. » C'est la même logique que dans toute une série de secteurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me souviens d'un très bon sketch de Coluche dans les années 70 à propos des maisons construites à bas prix qu'on appelait les maisons Merlin parce que c'était le nom du promoteur. Et ça se terminait par cette petite citation. Je ne vais pas vous lire tout le sketch, bien que peut-être je le ferai tout à l'heure si vous m'incitez vraiment, mais la formule de Merlin, c'est: pendant le crédit, tu répares ce qui s'écroule, et au bout de 15 ans, les ruines sont à toi. Eh bien voilà, c'est de l'humour, c'est excessif, mais il faut réfléchir. Alors la publicité. Je vous ai dit que la publicité, c'était quand même le principal dispositif pour pousser les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Le PDG de l'ancien PDG de TF1, Patrick Lelay, a été particulièrement franc en ce qui concerne le rôle de la publicité à la télé. Il a dit, à la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible pour écouter le message. Nos émissions sur TF1 ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages publicitaires. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire de commentaires pour que vous compreniez que ça veut dire que l'essentiel des émissions télévisées, selon cette conception, est faite pour que la publicité attire l'attention des gens. Cette publicité est devenue incroyablement coûteuse et de mon point de vue, c'est un énorme gaspillage mondial. Pourquoi gaspillage ? Exemple, voyez de la publicité pour les voitures partout. Mais dans un pays comme le nôtre, les ventes, les immatriculations de véhicules privés stagnent depuis 1990 aux environs de 3 millions par an. La publicité ne peut plus augmenter vraiment la taille de ce marché qui est à saturation. Elle sert juste à faire évoluer la part de marché entre les firmes automobiles. Et chaque firme dépense alors de plus en plus pour conquérir des parts de marché sans que, en produisant à peu près la même chose, des voitures, des lessives, des shampoings, etc., avec un grand renfort de publicité. Il y a une vingtaine d'années, une enquête auprès de PDG de grandes entreprises aboutissait à ceci. 80 à 90% de ces PDG disaient « Sans la publicité, la plupart de nos nouveaux produits ne trouveraient pas d'acheteurs. La publicité persuade fréquemment les gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. » Comme moi, l'écran plat, par exemple. Cela fait des sommes astronomiques. À l'échelle mondiale, le montant des dépenses publicitaires est d'environ 600 milliards de dollars par an. Ce chiffre ne vous dit rien. 600 milliards de dollars par an, ça paraît gros, mais est-ce si gros que cela ? Ben pour vous donner une idée, c'est 5 fois plus que ce d'après les Nations Unies, que ce qu'il faudrait pour régler sur le plan financier la plupart des problèmes mondiaux les plus urgents pour la vie quotidienne des populations des pays en développement. Éducation de base, santé, planning familial, accès à l'eau potable, assainissement pour tous, etc. 5 fois plus. Donc voilà, quand je parle de gaspillage, je trouve que je reste modéré, on pourrait parler de scandale. Avec 600 milliards de dollars par an, on pourrait vraiment régler les plus grands problèmes sociaux de l'humanité et les grands problèmes écologiques du réchauffement climatique. Je ne suis pas pour la suppression de toute publicité, c'est pas ça. Mais franchement, on vivrait très bien avec 5 à 10 fois moins. Objection, oui, mais là, il y a des gens qui me disent, d'accord, il y a bien une forme de manipulation des besoins. Mais c'est pas très valable, cette idée, pour les plus pauvres. Comment pourrait-on parler de manipulation des besoins chez ceux qui n'ont presque rien, qui consomment presque rien? Eh bien, même là, il faut réfléchir. Je vais prendre juste un exemple. En France, l'obésité touche 2 fois plus les ménages pauvres que les riches. Comment et pourquoi? Parmi les explications, il va falloir faire intervenir les stratégies des entreprises pour pousser à l'achat. Les chaînes de restauration rapide, les multinationales de l'agroalimentaire sont aujourd'hui accusées par les associations de consommateurs, par les médecins, de pousser à la consommation de produits dont le prix est aussi bas qu'est élevé leur teneur en graisse et en sucre. Les ménages pauvres, les ménages modestes sont une cible majeure pour ces produits. D'une part parce qu'ils sont les plus nombreux, d'autre part parce qu'ils sont les moins bien informés, et puis parce que, pour une raison tout à fait économique, comme l'explique une pédiatre, une calorie de légumes ou de fruits coûte 100 fois plus cher qu'une calorie de matière grasse ou de sucre. On a donc des firmes agroalimentaires qui organisent autour de ces produits, dont on sait que ce sont des produits à risque sanitaire pour la santé, des campagnes permanentes de publicité, y compris dans les émissions pour enfants. Il y a des lobbies qui exercent de fortes pressions sur le gouvernement et dont les publicités, enfin je vais vous donner 2 exemples de publicités, histoire de vous montrer jusqu'où ça va. Il y a quelques années, la marque de confiture Andros faisait une publicité sur le thème « Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour ». C'est cool ça comme idée pour des produits, c'est-à-dire des confitures qui contiennent 60% de sucre. Et la présentatrice d'émissions télévisées Sophie Favier faisait une publicité où elle vantait des sucettes à 0% de matière grasse en oubliant de dire que ces sucettes sont à 100% de sucre. Voilà, c'est prendre les gens pour des imbéciles, mais ça passe, ça existe et ça produit des effets. Et donc, alors, ce système de où on essaie de produire les besoins, de susciter les besoins, de la part des grandes entreprises en fonction de leurs stratégies et de leurs espérances de profit, et pas en fonction des besoins des gens, est tout à fait formidable. Prenons le cas des États-Unis. On sait que ce système produit aux États-Unis des taux d'obésité qui sont les plus élevés du monde. C'est une maladie nationale. C'est celle qui fait le plus de morts, qui fait baisser l'espérance de vie des Américains. Mais en produisant comme ça énormément d'obésité, le système s'ouvre de nouveaux marchés. Parce que les États-Unis sont aussi le pays où le marché des aliments sans cholestérol, le marché des médicaments contre le cholestérol ou pour le traitement de l'obésité est de loin le plus développé. Autrement dit, on est la croissance sans fin des besoins, c'est aussi cela. Susciter le besoin de produits qui font des dégâts et susciter le besoin de produits censés réparer les dégâts, on gagne dans ce cas-là sur tous les tableaux. Alors j'en viens aux plus pauvres. Évidemment, moi je ne vais pas dire que les plus pauvres surconsomment. Ce serait complètement stupide. Les ménages modestes n'ont pas assez de ce qui pourrait contribuer à leur mieux-être. Et en particulier aujourd'hui, bien souvent, ils sont mal logés, ils manquent d'accès universel à la santé, à l'éducation, à des transports collectifs, à des services de la petite enfance, à des services aux personnes âgées. Il y a d'énormes besoins sociaux insatisfaits pour les ménages pauvres et modestes. Donc d'un côté, ils sont limités dans leur accès à des biens et à des services vraiment essentiels, mais de l'autre, ils sont conduits à dépenser leurs ressources, qui sont des ressources faibles, dans le système de la publicité, des marques, du crédit, de la frustration. On est donc dans un système qui, parce qu'il n'est pas fait pour répondre à des besoins, mais pour produire des désirs à des fins lucratives, est particulièrement nocif pour les pauvres. C'est-à-dire les organismes de crédit à la consommation prospèrent sur le dos des plus pauvres, avec des taux usuraires, avec des pratiques inhumaines de recouvrement, de poursuite en justice, et c'est bien pire aux États-Unis. Aux États-Unis, les plus pauvres ont été les grandes victimes de la crise des subprimes, dont vous avez entendu parler. En France, le nombre de ménages surendettés a explosé au cours des 10 dernières années. Voilà, donc tout ça, pour moi, et puis après, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, on en discutera. Tout ça est en partie le résultat d'un système de création de besoins à des fins lucratives. Il va falloir que je me presse un peu. Deuxième moment, les limites du toujours plus et les résistances. Alors voilà, ce système du toujours plus consommé, de production de besoins de choses dont on n'a pas besoin, se heurte à deux types de résistances qu'ils n'avaient pas forcément prévu, d'un côté les citoyens, de l'autre la nature. Et donc, ce système est déjà en crise. Parce que les gens qui sont soumis à la manipulation des besoins gardent leur capacité de réflexion. Ils ne deviennent pas des sujets complètement conquis. Dans bien des cas, ils ne sont pas dupes. En octobre 2005, un sondage Louis-Harris disait que la majorité des personnes interviewées avaient un sentiment de manipulation de la part de la publicité des grandes marques, avaient un sentiment de surconsommation. 89% des personnes pensaient que l'on consomme trop de choses inutiles et avaient un sentiment d'impuissance face aux producteurs et à leur publicité. Donc il y a un esprit critique du citoyen qui continue d'exister, il y a des associations et voilà un premier... Depuis la crise financière et économique de 2008, il y a un renouveau même de ces mouvements qu'on appelle quelquefois anti-consuméristes. Consumériste, ça veut dire consommer pour consommer. Contre les excès de la publicité, contre les dégâts du consommer plus. Et le fait que cette crise ait pris naissance aux États-Unis, qui est le pays le plus riche du monde, celui où on consomme le plus, n'est pas tout à fait
sans signification.
En France, aujourd'hui, nous consommons environ deux fois plus qu'en 1968.
Il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, avec des inégalités qui ont progressé.
Est-ce que pour autant, quand on fait des enquêtes, les gens se déclarent plus satisfaits de la vie qu'ils ont ?
Pareil. Ça n'a pas bougé depuis 40 ou 50 ans dans les enquêtes de satisfaction. Est-ce que vous êtes satisfait de la vie que vous menez ?
Et en revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui sont inquiets pour l'avenir.
Toujours dans les sondages, avec les limites des sondages.
Trois quarts des Français pensent aujourd'hui dans les sondages que la vie de leurs enfants sera plus difficile que la leur, et j'espère pour vous qu'ils se trompent. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent que leurs parents vivaient mieux qu'eux.
Ce qui, dans certains cas, est faux.
Mais on obtient 50% de gens qui pensent ça, à tort ou à raison.
Hein, ce sont des sondages.
Mais voilà, le grand facteur qui fait réfléchir, c'est le choc de la crise écologique. On est certain maintenant que le mode de vie de production dit occidental, le nôtre, que bien d'autres pays s'efforcent de rattraper, on pourra en parler aussi dans le débat, et la Chine, etc., n'est pas tenable. La nature commence à résister à sa façon au produire, consommer toujours plus et donc prélever toujours plus et polluer toujours plus. Et comme le monde, je crois, à l'exemple de la catastrophe nucléaire au Japon, les méga-technologies qu'on nous a présentées comme des outils du toujours plus peuvent représenter des méga-risques. Quelques arguments sur cette question. Comment les questions écologiques nous font réfléchir à nos besoins ? Supposons que notre consommation croisse comme ça existait dans le passé de 2% par an.
On a eu des tas de périodes depuis la Deuxième Guerre mondiale où ça a été ça ou plus.
2% par an d'ici 2100.
Si vous prenez un petit truc pour calculer, vous dites ça fera combien ? On consommera combien en plus en 2100, à la fin de ce siècle ?
Et vous obtenez que notre consommation serait multipliée par 6 en 2100,
avec 2% par an, parce qu'à force, les 2%, ça se multiplie.
Franchement, vous vous voyez consommer 6 fois plus de trucs, vous ou vos descendants ? Quel sens ça peut avoir, indépendamment même des questions écologiques ?
La croissance perpétuelle des besoins, quel sens ça a être enfoui sous les objets qu'on aura achetés sans avoir le temps de les utiliser, enfin, etc.
Hein, et alors, 6 fois plus en 2100, mais si on poursuit, 40 fois plus en 2200 et 2500 fois plus en 2300. Voilà, on voit là qu'on est dans la démesure. Deuxième petit calcul, pour pouvoir stopper le réchauffement du climat et revenir à un climat plus normal, pour ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation qui seront déjà à l'origine de certaines catastrophes, il faudrait qu'on réduise nos émissions en France et dans d'autres pays semblables de 4% tous les ans d'ici 2050. C'est un objectif minimum. 4%, c'est ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. Il faudrait qu'on fasse chaque année autant de progrès qu'au cours des 10 dernières années où, il est vrai, on n'a pas fait grand-chose. Bon, si en plus on ajoute à ça un impératif de croissance de la consommation, de croissance des besoins, ça revient à appuyer sur l'accélérateur d'émissions au moment où il faut freiner, ça exige de réfléchir. Et puis, vous le savez aussi, le pétrole s'épuise, on est proche du moment où la production mondiale va se réduire et où le prix va s'envoler sans limite. Je pense même d'ailleurs qu'on y est plus ou moins aujourd'hui. Donc voilà, les matières premières, beaucoup d'entre elles se font rares, les terres arables, les forêts, l'eau, etc. Donc toute une série de choses font que on devrait prendre au sérieux cette phrase d'un ancien économiste qui disait « Ceux qui pensent qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini sont soit des fous, soit des économistes ». Alors maintenant, je reviens à la troisième partie. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Autrement dit, est-ce qu'on peut envisager une économie au service de besoins durables ?
Parce que pour l'instant, on a quand même l'impression que notre système économique marche sur la tête. Il n'est pas fondé sur des délibérations démocratiques où les gens disent « mais moi, mes besoins, ce serait ça », mais sur les marchés, eux-mêmes dominés par de grandes entreprises et par la finance. Et ça, c'est la crise de 2008 qui nous l'a démontré avec éclat. Mais c'était déjà vrai à l'époque de Galbraith, dans les années 60 et 70, il parlait de filière inversée, Galbraith. Filière inversée, ça veut dire « ce ne sont pas les besoins qui orientent la production », c'est en grande partie les grandes entreprises qui orientent les décisions d'achat. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce que ça existe déjà quelque part? Est-ce qu'on peut remettre l'économie au service de besoins compatibles avec les limites de la planète? Est-ce qu'on peut créer des emplois si on ne consomme pas toujours plus? J'ai consacré tout un livre à ça, qui est paru il y a quelques mois. Je vais reprendre quelques idées. Mais la principale, c'est que On peut, selon moi et selon de plus en plus de gens, heureusement, bien vivre dans une société plus juste, avec moins de chômeurs, sans rechercher le toujours plus. Et comment pourrait-on faire? La première chose à faire, de mon point de vue, c'est s'adresser aux gens eux-mêmes, non pas par des sondages, mais en les faisant discuter ensemble, mener de vastes assises citoyennes sur les besoins des gens à moyen, à long terme. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? De quoi auriez-vous besoin prioritairement pour pouvoir ensuite orienter les productions dans le même sens? Je donnerai des exemples pour être concret. Et ça, il faut le faire avec les syndicats, les employeurs, les élus, les citoyens, les consommateurs, les associations, les ONG, les chercheurs. Voilà. Ça commence à se faire, ici ou là, y compris dans cette région. Je pourrais donner des exemples. Et on s'aperçoit que quand les gens ont le temps de délibérer à fond, ils sont parfaitement capables de distinguer des besoins prioritaires et d'autres qui ne le sont pas, des besoins qui sont compatibles avec les limites de la nature et d'autres qui ne le sont pas. Il faut aussi en même temps discuter avec les gens d'une juste répartition sociale des richesses économiques d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment indécent ce à quoi on assiste. Entre les plus pauvres et les plus riches, on a un écart aujourd'hui en France qui va de 1 à 1000. Les très très riches, les quelques très très riches gagnent 1000 fois plus que les 5% les plus pauvres. Donc c'est... Discutons de ces inégalités. Privilégions la montée en qualité et non la progression des quantités. Et donc pas la croissance. Par exemple, si on réfléchit aux besoins de logement, la question c'est pas combien faudrait-il de mètres carrés de logement pour qu'en France les gens soient bien logés ou mieux logés. C'est, pour ces logements, avec quelle performance écologique et thermique? Quel transport collectif proche? Combien de logements vraiment sociaux dans tout ça? Quelle qualité de vie des personnes? Quel type de quartier, de vie de quartier? C'est ça qu'il faut mettre ensemble pour améliorer la qualité. Et je vais prendre un exemple qui est celui de l'agriculture et d'une alimentation saine pour tous, mais j'en ai d'autres. Si besoin pour le débat, j'aurai pas le temps de le développer au début. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture intensive, industrielle, mécanisée, chimique, etc., pose d'énormes problèmes de santé des consommateurs, de santé des agriculteurs eux-mêmes, d'environnement. Par exemple, en matière d'environnement, les sols s'épuisent. Ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces animales et végétales, s'épuise. Les nappes d'eau s'épuisent. Le pétrole est de plus en plus cher, il en faut énormément dans l'agriculture, pas seulement pour les machines, mais aussi pour produire les engrais, les pesticides, etc. Et ce que je dis là, c'est pas seulement vrai chez nous. Dans les pays pauvres aussi, aujourd'hui, les Nations Unies disent l'avenir pour nourrir l'humanité n'est pas dans la grande agriculture intensive, les OGM, etc. L'avenir, c'est le rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation qui l'a dit il n'y a pas longtemps, mais il y a des tas de travaux qui l'appuient. L'avenir est dans l'agroécologie, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France l'agriculture biologique adaptée à chaque type de pays et de territoire. Et donc, on est face à une offre de produits alimentaires, ce qu'on mange, de produits dans lesquels il y a beaucoup de pétrole pour les produire, beaucoup de pesticides. Pomme Golden, qui arrive sur une grande surface ici, les trois quarts du temps, elle a subi 30 traitements aux pesticides. Qui compte avec beaucoup d'engrais chimiques, avec beaucoup trop d'eau
utilisée pour produire, avec souvent trop de sel, donc de nombreux dommages à l'environnement. Bon, le problème, c'est que souvent, nous n'avons pas le choix. On ne trouve que ça, ou bien quand on trouve autre chose dont on se dit que c'est de meilleure qualité, c'est sensiblement plus cher, voire carrément plus cher. Les plus pauvres ont rarement les moyens de se payer du bio. Presque jamais. Sauf quand ils ont la chance, pour leurs enfants, d'être dans des municipalités qui privilégient le bio dans les cantines. Vous voulez acheter, des tranches de gigot dans les grandes surfaces aujourd'hui, dans la majorité des cas, vous trouvez du gigot néo-zélandais, qui est moins cher que le gigot de pas très loin, élevé proprement. Et le gigot néo-zélandais, il faut quand même savoir qu'il a parcouru 18 000 km en avion cargo réfrigéré, ce qui est un désastre écologique, une aberration écologique. Ça fait des tonnes d'émissions de CO2 que, bon, pour l'instant, personne ne paye. Et donc, à la limite, on va vous dire, il est moins cher, donc il améliore votre pouvoir d'achat, mais c'est un dommage écologique très important. Et puis, je pourrais prendre d'autres exemples. Les langoustines pêchées là-haut en Écosse vont en Thaïlande pour se faire décortiquer à la main parce que c'est vachement moins cher, retournent en Écosse pour la cuisson avant d'être distribuées par les magasins Marks & Spencer. Voilà le genre d'aberration sociale et écologique sur lesquelles repose le système actuel. Donc, comment réorienter ? Ben voilà, pour moi, il faut s'inspirer de ce qui existe déjà, mais qui n'est pas assez développé en matière d'agriculture saine, d'alimentation saine, de circuits courts, d'associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, qu'on appelle les AMAP, de coopératives, privilégier le local, privilégier les fruits et légumes de saison, et des politiques publiques derrière, parce que tout ça ne peut pas se faire seulement si on dit aux consommateurs acheter du bio. D'abord, il y en a qui ne peuvent pas, trop cher. Et puis ensuite, si tout le monde s'y mettait, la production en France, il ne suffirait pas, elle ne suffit déjà pas aujourd'hui. Et donc, il faut des politiques publiques. Par exemple, il faut récupérer des terres autour des villes, ce qu'on appelle le foncier périurbain, pour y aider des implantations d'agriculture bio ou raisonnée, ou de proximité, des ceintures maraîchères autour des villes. Il faut des commandes publiques, il faut que les cantines des municipalités, petit à petit, il y a un mouvement, se mettent à privilégier le bio. Voilà. Bon, et ben ce que j'ai dit là pour l'agriculture, si j'ai le temps tout à l'heure dans le débat, je pourrais le faire pour l'énergie, avec la priorité qu'il faut donner aux énergies renouvelables. Et je veux dire qu'aujourd'hui, on a des raisons de réfléchir pour de nombreux secteurs, pour le logement, pour le bâtiment, etc. Et point essentiel, tout cela, toute cette reconversion par étapes, serait excellent pour l'emploi. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que s'il n'y a pas de croissance de la consommation, de la production, il n'y aura pas de création d'emplois. Mais je suis désolé, là, sans croissance de la production et de la consommation, si on monte en qualité, on peut créer beaucoup d'emplois, parce que produire selon des méthodes plus respectueuses de l'environnement, ça exige beaucoup plus d'emplois pour les mêmes quantités produites. Beaucoup plus d'emplois dans l'agriculture biologique que dans l'agriculture intensive pour les mêmes quantités de fruits, de légumes ou de céréales. Beaucoup plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans ces grandes centrales à haut risque qui sont privilégiées aujourd'hui. Beaucoup plus d'emplois dans le bâtiment à haute qualité environnementale que où les gens d'ailleurs payent quand il y en a nettement moins de charges énergétiques et d'eau. Donc sur le plan social, c'est aussi intéressant, et même beaucoup plus d'emplois, comme l'ont montré des syndicats européens, si on privilégiait le transport collectif par rapport au transport individuel par voiture. Voilà, je vais conclure pour essayer de tenir à peu près dans les délais qu'on m'avait fixés. Qu'est-ce qui fait vraiment, qui est capable de dire ce que sont les besoins des gens? Après tout, chacun d'entre nous a des besoins différents, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui nous dise de tout en haut, vos besoins c'est ça. Ah, je suis bien d'accord, c'est pas moi qui vais dire quels sont aujourd'hui les besoins. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est poser la question aux gens et faire en sorte qu'ils en discutent, qu'ils délibèrent. Quelle est la première question que vous posez quand vous rencontrez un ami, un copain, quelqu'un de la famille, etc. Ça va? Comment ça va? Charbatisote, enfin, tout ce que vous voulez, mais bon, quelque chose comme ça, quoi. Bon.
Et c'est quand même rare qu'ils vous disent « Ben, ça va parce que j'ai consommé 5% de plus le mois dernier. » Voilà. De quoi ils vous disent les gens à la question « Ça va ?» Ils vous parlent de la santé, de la famille, des amis. Charles Aznavour disait « En même temps, vous ne l'avez pas connu, vous, mais moi je suis vieux. Hein. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. » Le boulot, enfin tout ce que vous voulez, les études, le lycée, les profs sont chiants, ils sont bien, enfin bon. Voilà ce qu'il va vous dire dans le ça va. Il va pas vous dire je consomme vachement plus qu'avant, donc moi je suis super heureux. Eh bien, quand on met les gens en situation de discuter de qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce que seraient les besoins prioritaires, ce sur quoi faudrait mettre le paquet, ils fournissent des résultats, des délibérations extrêmement intéressantes. On a eu, dans cette région, il y a un an environ, une conférence citoyenne avec 15 personnes tirées au sort, donc il y avait vraiment de tout, disant c'est quoi les priorités, les richesses fondamentales qu'on devrait privilégier. Et ils ont cité, alors ils citaient pas tous la même chose, mais quand on met tout ça ensemble, solidarité, émancipation, entraide, partage équitable des ressources, services publics, culture, droit aux soins, tenir compte des générations futures, et un seul indiquait l'argent. Et ça pouvait être tout à fait légitime parce que c'était probablement le fait d'une personne qui était quand même en manque sérieux de ressources. Donc voilà, réfléchir collectivement aux vrais besoins, ça n'est pas gâcher le plaisir, c'est lui donner une autre dimension. Le gros problème est que pour l'instant, le pouvoir des consommateurs sur la production et sur la distribution reste faible. Les associations de consommateurs ne sont pas en état, ou de citoyens, de peser sur les grands choix de production et de consommation. Vous connaissez tous forcément les iPad ou iPad selon qu'on prononce français ou anglais. Si les associations de consommateurs et les citoyens avaient pu influer sur les conditions de production de l'iPad, est-ce qu'ils auraient autorisé Apple à diffuser un bazar où la batterie est tellement moulée dans la coque que quand la batterie tombe en panne, vous êtes obligé de changer le tout. La batterie, c'est moins de 100 euros. L'iPad, il doit être entre 400 et 500, je ne sais pas. Bon, voilà. Ça, c'est chouette. Et si les consommateurs avaient le pouvoir, ça serait. On n'aurait pas ce genre de situation où ils sont piégés. Donc, il faut que les consommateurs deviennent des citoyens qui essaient d'influer sur les choix de production. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'agriculture bio en France pour répondre même à la demande qui pourtant est insuffisante. On est obligé d'aller l'acheter ailleurs, les produits bio, ce qui n'est pas très, très bon pour les transports et pour les émissions. Et donc, il faut des choix politiques. On est très en retard par rapport à d'autres pays en France sur l'agriculture bio, sur les énergies renouvelables, sur le bâtiment à haute qualité environnementale. Il faut donc que le citoyen vienne au secours du consommateur en fonction de besoins définis par de larges délibérations. Ce sera mon mot de la fin. En attendant le débat, je vous remercie de votre attention.